Marbella Radio. Marbella Radio 107.6 FM. El protagonista eres tú.
Bonsoir, bienvenue chez moi. Bienvenue chez moi. Sans or et sans promesse, je t'en à apprendre de toi. Oh, bienvenue chez moi. Tu seras bienvenue chez moi. Si tu n'abandonnes pas, tu vaux plus que ce que tu crois.
Alors, bonjour à toutes et à tous. J'ai le plaisir de vous retrouver encore une fois ce mercredi de 16h à 17h pour une programmation Studio F 107.6 FM. Et aujourd'hui, nous allons démarrer cette émission, cette programmation avec une interview. Une interview que j'ai enregistrée la semaine dernière en duplex de Paris avec Charlotte Chebou, qui est la responsable de la communication de la maison Collector Square, une maison de luxe qui est en fait leader dans la vente en ligne de seconde main pour des articles de luxe comme la maroquinerie, les bijoux et aussi en fait l'art. Voilà, je vous propose d'écouter cette interview qui va durer environ une petite demi-heure et je vous propose de vous retrouver après pour la suite du programme et la variété musicale. C'est parti, à tout de suite, on se retrouve dans une petite demi-heure.
Voilà, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes bien sur Studio F. Studio F, c'est parti. Aujourd'hui, nous allons parler de mode et du luxe avec la responsable de la communication de la maison Collector Square à Paris, qui est leader dans la vente en ligne d'objets de luxe de seconde main, comme la maroquinerie, les bijoux et les œuvres d'art. Voilà, j'ai le plaisir d'accueillir sur Studio F Charlotte Chebout. Bonjour Charlotte.
Bonjour Susanna, merci de m'accueillir.
Merci à vous de vous prêter à l'exercice en duplex de Paris. Donc pour tous nos auditeurs qui nous écoutent, je vais peut-être vous présenter brièvement avant d'aborder cette interview. Donc vous avez grandi dans le sud de la France, vous avez quitté très vite ce cocon familial pour aller poursuivre vos études en Suisse, à Londres et en Italie pour justement obtenir un Master in Luxury. Et ensuite, donc, vous avez plusieurs expériences dans le domaine de la mode, comme chez Hermès, et vous avez rejoint dernièrement donc la maison Collector Square, et vous êtes aujourd'hui justement la responsable de la communication.
Exactement, c'est un chemin assez long maintenant. C'est toujours difficile de réaliser quand ça fait un moment qu'on est dans une entreprise. Donc maintenant, ça fait un peu plus de 4 ans et demi que je suis chez Collector Square. Et j'ai commencé à la maroquinerie d'abord parce que voilà, j'avais une passion pour le sac à main. Donc j'ai commencé à ce poste-là et ensuite effectivement au fil des années et de l'évolution de Collector Square, j'ai moi aussi évolué avec la maison et je suis devenue responsable communication un petit peu pour voir l'envers du décor et tout ce qui se passe, tous les métiers disons qui existent dans la seconde main.
Très intéressant, et comme le mois de mars était le mois de la Fashion Week, donc c'était une excellente occasion de vous avoir avec nous, mais aussi parce que Collector Square fête ses 10 ans cette année, et justement on va aborder cette interview, on va commencer directement dans le vif du sujet. J'aimerais savoir justement, avec votre expérience, quels ont été pour vous les moments clés de cette décennie.
Effectivement, c'est un beau milestone pour nous cette année. 10 ans, c'est pas rien, surtout dans ce secteur qui a tellement évolué au fil des dernières années. Alors c'est vrai que un des premiers moments clés, c'est vraiment le lancement de notre maison Collector Square, parce que c'est vrai que il y a 10 ans, il y avait encore très peu d'alternatives pour revendre des objets de luxe. Alors bien sûr, il existait les maisons de vente aux enchères ou le dépôt vente tel qu'on le connaît un peu plus classique, mais c'est vrai que ces deux options qui sont soit très intimidantes ou alors qui, à l'époque, pour les dépôts-ventes classiques, apportaient peu de garanties, que ce soit sur le prix, sur l'authenticité, ce genre de choses. Donc, c'est vrai que voilà, Nicolas et Ozana Orlowski, nos deux cofondateurs, ont vraiment eu une vision un petit peu futuriste à l'époque en créant un site internet et en l'accompagnant d'un showroom pour revendre des objets de luxe. C'était vraiment un petit peu avant-gardiste, en tout cas pour l'époque, sur ce secteur-là. Du coup, on a inauguré par la suite notre showroom historique qui maintenant se trouve au 36 boulevard Raspail dans le 7e arrondissement, juste à côté du Bon Marché. Donc ça aussi, un moment clé parce que on a voulu affirmer que même si on est un site internet, ça reste important pour nous de montrer à nos clients que voilà, il y a des vrais humains qui travaillent derrière tout ça et qui permettent d'avancer et de faire avancer Collector Square. Donc voilà, c'était vraiment un deuxième moment clé de l'histoire de Collector Square. Et puis après, voilà, la rencontre avec nos partenaires, comme le Bon Marché, avec qui on travaille donc, depuis maintenant presque 3, voire 4 années. On a un espace permanent au rez-de-chaussée pour la joaillerie et l'horlogerie. Et on vient d'ailleurs, voilà, ça tombe bien encore une fois, d'ouvrir notre deuxième espace qui est dédié à la maroquinerie. Il a été ouvert la semaine dernière, donc voilà, on est vraiment dans le bon timing. Et donc voilà, ça montre un petit peu voilà, la puissance de la seconde main qui est aujourd'hui et cette évolution. Donc on est très fiers d'être partenaire du Bon Marché. Et puis on a aussi en 2022 commencé un partenariat avec les hôtels RL. Donc voilà, une étendue qui dépasse la mode et qui va même jusqu'au lifestyle.
C'est formidable. Du reste, j'ai eu effectivement l'occasion de visiter le showroom qui est magnifique. Vous avez des très belles installations. Et justement, ceci m'amène à vous demander, puisque vous avez en fait bien évolué depuis ces 10 ans, comment la perception du luxe de seconde main, justement, selon vous, a-t-elle été évoluée depuis la création de la maison? Je vous parle du principe des clients, en fait, des clients en soi. Comment vous l'avez, il y a un engouement quand même. Donc, comment ça a évolué? Ça a évolué assez fortement, j'imagine.
C'est clair qu'il y a un vrai engouement et je pense qu'on peut clairement dire qu'aujourd'hui, la seconde main, elle fait partie presque du quotidien de tous, mais ce n'était pas vraiment le cas avant. Alors, il y a forcément le digital qui a permis d'encourager ce développement et de permettre, entre guillemets, une démocratisation de la seconde main et particulièrement de la seconde main de luxe, parce que c'est vrai que voilà, il existait déjà des plateformes pour revendre des vêtements un peu de tout univers, mais voilà, le luxe c'est quand même quelque chose qui est un petit peu à part. Et donc c'est une éducation des clients qui s'est fait au fur et à mesure et qui a vraiment été encouragée par Internet, quoi, il faut le dire. Et puis c'est vrai qu'on a aussi un nouveau rapport à l'investissement, à la durabilité, à la rareté des objets. Et c'est vraiment ce qui fait qu'aujourd'hui, notre secteur très spécifique est très apprécié et fait venir de plus en plus de personnes. On remarque d'ailleurs que voilà, avant, on avait beaucoup de clients qui étaient acheteurs, beaucoup de clients qui étaient vendeurs, certains qui faisaient un petit peu les deux, mais aujourd'hui, les deux chemins se croisent beaucoup plus qu'avant. Donc il y a un vrai changement et c'est hyper intéressant à voir.
Vous avez un équilibre finalement entre les clients vendeurs et les clients acheteurs, si je comprends bien, et justement donc le marché du luxe de seconde main qui connaît cette forte croissance. Vous avez expliqué quelques facteurs, notamment le digital, et vous avez effleuré en fait aussi l'éco-responsable en fait, le domaine éco-responsable. Donc des personnes préfèrent peut-être aussi acheter de seconde main pour justement ce sentiment d'éco-responsable de durabilité, non?
Oui, c'est vrai. Peut-être que du coup, je vais répondre peut-être à plusieurs questions que vous aviez en même temps. Mais oui, il y a aussi dans les facteurs qui expliquent voilà, l'engouement pour la seconde main. Bon, bien sûr, il y a la circularité, hein, ça reste l'élément principal. Il ne faut pas oublier voilà, qu'aujourd'hui, on veut consommer mieux, on veut limiter la surconsommation. Donc, ça reste un des facteurs principaux qui encourage les gens à se tourner vers la seconde main. Pour ce qui est vraiment de la particularité du marché de la seconde main de luxe, il y a aussi le fait de pouvoir acheter des pièces de luxe à un prix plus abordable, surtout par les temps qui courent avec l'inflation. Il faut pas oublier que les marques ont augmenté ces dernières années à la suite du Covid, de toutes les difficultés qu'on sait de production qu'il y a eu, leur prix de vente, ce qui est finalement logique. Mais du coup, ça a eu aussi un impact sur le consommateur et on a des clients qui préfèrent finalement maintenant se tourner vers la seconde main pour essayer d'avoir voilà, un prix qui correspond plus à leur budget. Et puis après, voilà, comme je vous le disais, il y a aussi l'envie de se tourner vers de nouvelles formes d'investissement. On a vu ces dernières années que voilà, l'immobilier était un peu plus à risque, par exemple. Donc, on a envie de se faire plaisir en achetant une très belle pièce dont on sait Alors, on ne sait pas forcément hein, qu'une montre Rolex ou un sac Hermès, ça va prendre de la valeur. Ça, on peut pas le garantir. Mais une chose est sûre, c'est que ça risque de ne pas forcément en perdre. En tout cas, on risque de retenir un peu sa valeur. Et en plus, c'est quelque chose qui va nous faire plaisir, quelque chose qu'on peut porter. Donc voilà, il y a un peu cette envie d'investir d'une façon différente qui encourage aussi à se tourner vers la seconde main de luxe. Et puis on le voit, hein, voilà, dans les derniers mois, le cours de l'or a tellement augmenté, ça a forcément un impact sur la valeur de ces objets.
Absolument, donc comme vous le disiez très justement, donc la qualité, la singularité, il y a plusieurs phénomènes. Et justement, en fait, j'imagine qu'il y a d'autres sociétés qui font ce que vous faites, bien que vous soyez leader. Justement, comment Collectorsware, comment la maison se différencie-t-elle des autres acteurs du marché, s'il y en a, qu'est-ce que vous pouvez en dire par rapport à ça?
Alors oui, du fait aussi que ce soit un marché qui se développe beaucoup, ça veut dire qu'il y a forcément de nouveaux acteurs qui interviennent de jour après jour, hein. Mais c'est vrai qu'on est assez différent de ce qu'on appelle les plateformes de vente. Donc, c'est des sites qui fonctionnent, disons, de particulier à particulier. Alors, nous, on source effectivement aussi via des particuliers. Tous les objets que nous recevons et que nous présentons sur le site viennent de clients particuliers. Mais cette différence, elle s'explique par le niveau de service. Nous, on fournit autant aux clients vendeurs qu'aux clients acheteurs un service avant-vente, un service après-vente, s'il y a besoin de rénovation pour les objets. Comme je vous le disais, on a un showroom, on promouvoit vraiment l'humain, notre service client aussi. On a une équipe qui répond 6 jours sur 7 via chat, WhatsApp, mail, téléphone, voilà, et qui est disponible vraiment. On n'a pas de robot. On a un studio photo, on a nos propres lieux de stockage, voilà, et puis on fait tout ce qui est tout ce dont je m'occupe en partie. Toute la communication et le marketing pour mettre en avant les très belles pièces de nos clients. Donc c'est un service qui est très différent. Voilà, on fait vraiment nous l'intermédiaire entre le client qui vend et qui achète, et c'est ce qui fait vraiment la différence avec les autres plateformes et les autres sites, quoi. On essaie vraiment de prouver qu'il peut y avoir un vrai lien réel entre voilà, notre site internet et l'humain et le physique et nos différents points de vente.
C'est vrai, parce que vous avez un magnifique showroom que je connais, évidemment, on s'est rencontrés là-bas, et c'est vrai que le fait d'avoir justement cette présence humaine, je pense, réconforte aussi et permet aussi à la clientèle, ben, simplement de déambuler, de voir justement vos produits sur rendez-vous. Donc, je trouve que c'est un rapport qui est très intéressant. Et justement, selon vous, puisque j'ai vu que vous aviez aussi ouvert un espace à Doha, ce qui m'amène à vous poser la question suivante: quel est le profil type des clients de Collectorsware aujourd'hui? Et si vous avez observé justement une évolution dans leurs attentes et habitudes d'achat?
Alors, c'est vrai que l'avantage du marché de la seconde main, c'est qu'on peut toucher beaucoup de personnes très différentes. On a, bon, de part aussi notre site internet, l'avantage de pouvoir toucher une clientèle qui est très internationale et de tout âge. On a voilà, vraiment une clientèle française, une clientèle de quartier tout autour de notre showroom, mais on a aussi une clientèle internationale qui adore absolument mettre dans son agenda quand il se déplace à Paris. L'obligation de venir nous voir au showroom pour voir de jolies pièces. Donc on a vraiment l'avantage de pouvoir toucher des cibles, des personnes très très différentes et variées, voilà, parce qu'il y a aussi différents types d'achats dans la seconde main de luxe. Il y a le client qui recherche une pièce vintage. Donc le collectionneur qui court après la perle rare et ancienne. Il y a aussi, bah, comme je le disais tout à l'heure, le client qui veut une super pièce, mais à un prix plus accessible. Et on va aussi avoir, bah, des clients qui cherchent des pièces qui sont aujourd'hui, voilà, qui créent un engouement parce qu'elles sont de plus en plus rares en boutique et ils les veulent dans un état excellent. Donc il y a des clients qui veulent aussi des objets avec une jolie patine, donc où on voit, voilà, qu'ils ont vécu, ils ont survécu même à des années et des dizaines d'années. On a des objets qui datent des années 50, donc c'est assez fou, et qui sont en état incroyable. Et on a des clients, voilà, qui préfèrent des pièces plus récentes, parfois plus modes, et qui vont être en excellent état.
Voilà donc un brassage très intéressant. Rappelons à nos auditeurs que non seulement vous vendez de seconde main donc des sacs à main, évidemment de la maroquinerie, mais aussi des bijoux et des œuvres d'art. Et en fait, toute cette complexité m'amène à vous demander, à vous parler en fait de l'authenticité, puisque c'est une question tout à fait cruciale dans le luxe, vous le savez, surtout le luxe aussi de seconde main. Et comment garantissez-vous justement la qualité et l'authenticité des pièces que vous vendez?
C'est ici aussi que l'humain, sur ce sujet d'authenticité et d'expertise, nous permet de vraiment nous différencier encore une fois des plateformes et de nous garantir d'être vraiment sur le secteur le plus haut de gamme de la seconde main. Voilà, c'est au bout de 10 ans, Collector Square a su développer un savoir-faire. On a réuni un comité d'experts et de spécialistes sur cette décennie, voilà, qui sont reconnus chacun dans leur domaine et qui travaillent en collaboration pour authentifier tous les objets qu'on reçoit tous les jours chez nous. Parce que vraiment, c'est un point très important. La différence avec une plateforme de vente, c'est que nous, on a tous les objets en main. Aucun objet ne peut se retrouver sur le site s'il n'a pas été vu, touché, senti par un expert. Donc, c'est vraiment très important pour nous. Chaque pièce, elle est sélectionnée pour sa qualité et sa désirabilité. On représente des marques particulières sur lesquelles on pense, en tout cas, qu'il y a voilà, une histoire derrière. Il y a un gage de savoir-faire, de durabilité. Voilà, on a la conscience qu'un sac Hermès est fait par des artisans. Ça prend 15 à 20 heures selon les sacs Hermès pour faire un sac. Et puis on le voit, les sacs qui ont 50 ans de la maison Hermès ou même plus pour certains, ils ont résisté à toutes les épreuves de la vie et d'une façon complètement remarquable. Donc voilà, on choisit vraiment des pièces qui ont pour nous ces qualités-là de durabilité. C'est vraiment très important. Et d'ailleurs, hein, puisqu'on travaille avec un comité d'experts, chaque pièce est vendue avec son certificat d'expertise Collector Square, un élément important pour nos clients. Et quand je parlais de qualité et de désirabilité, pour vous donner un petit peu la dimension des choses, on reçoit environ par jour, tout département confondu, un peu plus de 200 demandes d'expertise. Et sur toutes ces demandes, on en rejette quasiment la moitié. Donc voilà, c'est vraiment un travail de curation. On fait vraiment attention à la valeur des objets, à leur originalité. Hein, une montre qui, de l'extérieur, a l'air complètement parfaite peut, de l'intérieur, avoir eu des modifications au niveau du mouvement. Alors, c'est pas toujours volontaire. Hein, on a des clients qui peuvent vouloir faire réparer une montre ancienne dans un atelier et qui, en voulant bien faire, change une partie de ce mouvement par un mouvement plus classique. Mais du coup, ça change tout sur la valeur de l'objet. Du coup, on fait vraiment très attention à ces choses-là, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a un atelier horloger directement chez nous et que chaque montre voilà, est vérifiée avant validation d'expertise et que chaque montre est vendue d'ailleurs. Ça permet aussi d'apporter une garantie au client avec une garantie de service d'un an. Donc c'est vraiment une partie très importante. On peut aussi garantir le service après-vente et c'est pas négligeable pour nos clients. Et un point important qui permet aussi qui est un peu un gage d'authenticité sur les pièces que nous proposons, c'est que sur le site, en tout cas quand on nous propose des pièces à vendre, nous on propose en général deux options et on est l'un des rares acteurs sur le secteur à pouvoir le proposer. On propose à la fois de la consignation, c'est-à-dire du dépôt-vente, mais on propose aussi parfois et souvent même de l'achat immédiat. Donc voilà, ça veut dire que c'est une pièce qui va nous appartenir par la suite. Et donc ça veut dire aussi qu'on s'engage sur ce stock en propre à garantir l'expertise de ces pièces.
Très bien, écoutez, merci pour cette réponse tout à fait détaillée et c'est formidable. Donc c'est vraiment une entreprise justement qui regroupe différents métiers pour justement faire cette qualité, cette expertise au niveau de toutes les pièces. Du reste, j'ai vu quelque part que vous aviez en fait en collection de luxe seconde main une sélection permanente de près de 15 000 pièces expertisées et prêtes à être expédiées en 24 heures, c'est juste?
Exactement. Donc c'est des pièces, voilà, comme je vous le disais, après on en reçoit On a quasiment 200 demandes par jour, donc ça commence à faire du volume. Et c'est aussi, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est cette capacité à toucher des personnes un peu du monde entier. Donc forcément, ça fait pas mal de pièces qui peuvent venir d'un peu de partout dans le monde. On expédie, mais on reçoit aussi des pièces qui viennent, voilà, d'Asie, du Moyen-Orient, des États-Unis, d'Amérique du Sud, mais tout aussi proche de notre quartier, dans le 7e arrondissement de Paris. Donc ce qui fait que voilà, on arrive à avoir une jolie voilà, déclinaison de pièces vintage et plus récentes des plus grandes maisons du luxe.
Alors justement, en fait, tout ce brassage, en fait, tous ces articles qui proviennent du monde entier, j'imagine qu'il y a certainement des pièces qui sont plus recherchées aujourd'hui. Et pour vous, y a-t-il des tendances particulières?
Alors, c'est toujours une question, c'est marrant parce qu'on aimerait des fois répondre des choses un peu extraordinaires. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de surprise de ce côté-là. Voilà, ce sont les pièces et les maisons iconiques qui restent les plus recherchées. Pour la maroquinerie, en top 3, on va avoir Hermès, Chanel et Louis Vuitton. Pour l'horlogerie, ça va être Rolex, Cartier, Patek et Audemars. Pour la joaillerie, on va aller sur Van Cleef & Arpels, Cartier et bien sûr Boucheron. Voilà, des grandes maisons, des maisons iconiques. Je pense des maisons qui ont prouvé voilà, la capacité de leurs objets de résister et d'être durables. Et après, bien sûr, c'est vrai qu'il y a toujours un petit peu des effets de mode ou des effets de communication des maisons, parce que voilà, certaines maisons rééditent. Des modèles. Alors, il y a eu il y a quelques années la réédition du Fendi Baguette qu'on connaît par la célèbre série Sex and the City. Il y a eu par Cartier la réédition de la Tank et de la baignoire, de la Chanel première pour Chanel, pour les montres toujours. Donc, il y a vraiment ces petits effets qui relancent par exemple des collections. Je dirais pas endormi parce que c'est vraiment des collections qui restent iconiques, mais ça permet toujours de remettre un petit peu en avant. Et c'est vrai que nous, on observe un peu ces phénomènes dès qu'il y a un anniversaire. L'année dernière, il me semble, ou l'année d'avant, il y a eu l'anniversaire de la collection Serpenti chez Bulgari. Et c'est vrai que nous, on a eu un regain d'intérêt, en tout cas sur le marché de la seconde main, pour les pièces Serpenti, qu'elles soient vintage ou récentes, qui a été assez important. Donc ça peut aussi avoir un effet. Et puis après, il y a un dernier petit élément qui est les éditions limitées et les collaborations, qui est plus en effet pour la maroquinerie que les deux autres départements, joaillerie et horlogerie, et surtout et art et collection. Donc c'est vrai que par exemple la maison Louis Vuitton fait souvent des collaborations artistiques et revisite ses sacs à main iconiques. Il y a eu Jeff Koons, Murakami plus récemment, et tout ça a des effets assez importants. On le sent très vite. Donc voilà, c'est à peu près les effets les plus importants, mais c'est vrai que voilà, il n'y a pas trop de surprises, ça reste vraiment les iconiques des grandes maisons, le Birkin chez Hermès, le Kelly chez Chanel, le Timeless, le 255 pour Cartier, je vous le disais, voilà, la Tank, la baignoire, pour Van Cleef & Arpels, les colliers, les bracelets à l'Ambra, le Love chez Cartier, donc voilà, ça reste vraiment l'iconique, l'intemporel.
Oui, ben c'est toujours des maisons de toute façon de référence. Et le fait que justement vous ayez en plus votre showroom, vous faites aussi un marketing extraordinaire parce que vous envoyez aussi vos mailings, vous mettez au courant de tous les clients, en fait. Donc c'est vrai que ce sont des maisons de référence qui restent un gage de qualité, je dirais, pour tout un chacun. Très intéressant. On a juste envie d'une chose, c'est de pousser la porte du showroom et de venir vous voir.
Nous, on serait ravis de vous accueillir à nouveau pour vous, Susanna, et pour les autres aussi.
Absolument, comme j'ai l'occasion de venir vous visiter régulièrement, je suis fan inconditionnelle. Et j'aimerais justement, pour terminer gentiment, puisque le temps passe, mais nous avons encore un petit peu de temps ensemble, justement, puisque vous fêtez vos 10 ans, j'aimerais savoir un petit peu quels sont les prochains défis et ambitions pour Collector Square, comment vous vous positionnez, quelles sont justement ces ambitions et ces défis.
Alors, les défis, c'est vrai que c'est des défis qu'on a, j'ai envie de dire, presque depuis le début de Collector Square et qui restent des défis au quotidien et qu'on aura, je pense, Toujours. Alors voilà, notre volonté de d'apporter toujours un service plus haut de gamme et plus personnalisé, c'est un défi du quotidien. On a développé récemment aussi un service voilà, plus personnalisé pour nos clients habitués. On a aussi ce défi très important, puisque voilà, nous, le cœur de notre métier, c'est notre offre. Donc, on a ce défi de sourcing, donc qui est un défi permanent. Il faut pouvoir aller chercher les pièces incroyables. Exactement, il faut pouvoir aller chercher les pièces incroyables et surprenantes. Donc, c'est vraiment voilà, un défi de tous les jours, un défi du quotidien. Et puis, l'envie de développer Collector Square en dehors des frontières de Paris, en dehors même des frontières françaises. Envie de développer Collector Square à l'étranger dans les mois, voire années à venir. Ça, ce serait vraiment très important pour nous.
Surtout que cet espace, ça doit être significatif, c'est quand même pas rien, c'est un joli pas, et comme vous dites très justement, dénicher toujours le produit phare, maintenir cette qualité, voire l'augmenter, mais bon, c'est vrai que vous avez une équipe, je ne sais pas combien de vous finalement dans la société actuellement pour nous donner une idée.
On est un peu plus d'une cinquantaine maintenant. Donc voilà, on grossit aussi en interne. Bah, c'est pour ça d'ailleurs, vous avez dû voir, Susanna, lors de votre dernier passage, on a donc le showroom du 36 et on a un petit peu étendu notre présence dans le boulevard Raspail, puisqu'on a ouvert récemment, enfin il y a un an et demi maintenant, un nouvel espace. Qui est dédié cette fois donc à notre dernier département, qui est le département Récollection, qui est le plus récent, parce qu'il a seulement 4 ans. On ne se rend pas compte avec les années Covid, on perd un peu le fil des choses. Mais voilà, qui est un département qui est du coup dédié aux objets d'art et de collection. Et on a ouvert ce petit espace-là, du coup, pour voilà, ce deuxième showroom, pour le mettre en avant. Et surtout parce qu'à la base, on avait besoin d'agrandir pour des besoins internes et humains. Donc ça nous a permis, voilà, d'une pierre deux coups, on va dire, de nous agrandir.
J'allais poser justement la question parce qu'en fait, Frédéric, on est allé justement, il a gentil de me faire visiter justement ces installations. Donc, c'est une innovation, effectivement, parce que là, vous avez cette division art et tableau. Donc, non seulement on peut aller chez Collector Square pour justement la maroquinerie, on parlait tout à l'heure, donc les montres, enfin, tout ce qui est donc les bijoux de luxe, mais aussi là, mais les tableaux, là, j'imagine que c'est un marché un petit peu beaucoup plus ponctuel. Puisque aussi pour des raisons de capacité, vous ne pouvez pas non plus comment dire, avoir en entrepôt en fait énormément de tableaux, mais vous avez quand même quelques pièces, je pense, marquantes aussi.
Oui, on a environ 1 000 pièces dans ce département-là. Oui, quand même. Et donc, c'est un département, comme je disais, qui est plus récent, mais c'est un département aussi qui a une consommation, en tout cas, qui engage une consommation différente. On a voulu ouvrir ce département, voilà, pour vraiment installer confortablement Collector Square sur ce segment le plus haut de gamme. Pour nous, c'était vraiment le quatrième département qui pourrait venir compléter les trois autres. On est convaincu qu'une personne qui est passionnée d'horlogerie peut aussi devenir passionnée d'art et inversement. On représente des pièces qui sont du 20e et du 21e siècle, des multiples, des pièces qui, pour nous, ont une cote et une valeur. Et c'est aussi un petit peu une façon d'innover, de se démarquer sur le marché de l'art, puisque c'est voilà, on est un des premiers acteurs à faire voilà de l'art à prix fixe, à la différence d'une maison de vente aux enchères. Donc voilà, il y a la possibilité voilà, c'est pas il y a pas ce côté intimidant de la maison de vente, mais il y a aussi voilà la possibilité d'acheter une pièce d'art pour commencer voilà sa collection avec un coup de cœur. C'est vraiment un département qui pour nous est très important aujourd'hui et qu'on a vraiment envie de développer, pour lequel on a vraiment beaucoup d'ambition voilà pour le futur.
Ouais, en tout cas, un très, très grand succès. Écoutez, cette interview justement qui va gentiment prendre fin. En tout cas, moi j'ai été ravie de pouvoir justement vous avoir en ligne et surtout parler de beauté, puisque j'ai eu l'occasion d'avoir d'autres personnes que j'ai interviewées, notamment dans la photographie, et on a relevé justement qu'on ne parlait pas assez de beauté, justement à travers ce que vous faites, à travers le luxe, à travers ces pièces finalement, et toute cette expertise, mais aussi ce savoir-faire de tous ces artisans, on met en avant, on fait justement aussi le savoir-faire, mais la beauté de la beauté de choses uniques, et je pense que dans ce monde, il faut se raccrocher aussi à cette partie de beauté et de rêve. Je pense que vous partagez certainement ce sentiment.
Complètement, on sait que voilà, y a peut-être une partie d'investissement dans les objets qu'on vend, mais pour nous, l'aspect principal, c'est vraiment la passion et le savoir-faire qu'il y a derrière ces objets, et c'est ce qui les rend beaux.
Alors justement, avec toute cette passion, ben nous allons nous quitter. Nous espérons vous retrouver très vite. Je pense que nous aurons l'occasion de nous parler pour justement cet anniversaire que vous fêtez cette année. On vous souhaite déjà un plein succès. On vous remercie d'avoir gentiment répondu à nos questions et je vous dis à très vite et je vais bientôt rendre l'antenne. Merci Charlotte en duplex de Paris. Charlotte, oui. Est donc la responsable de la communication de la maison Collector Square.
Merci beaucoup, Susanna. À très bientôt.
À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir, Charlotte.
Alors voilà pour cette interview qui était enregistrée en duplex de Paris, donc avec la maison Collector Square, et nous allons gentiment poursuivre cet après-midi avec le programme musical que je vous ai réservé. J'espère que vous êtes confortablement installés maintenant que le soleil est revenu chez nous, en tout cas sur la Costa del Sol. Je vous propose d'écouter en fait une petite chanson légère avec justement Stacy Kent. C'est parti en musique, c'est tout de suite.
Je voudrais te faire une chanson légère. Comme une bulle de savon, un nuage de coton, une aile de papillon, une chanson éphémère, comme sont les chansons qu'on chantonne dans son bain. Une chanson l'aide rien, un voyage son bagage. Moi je voudrais te faire une chanson légère, comme une rime qui sème, quelques vers de bohème et des pieds de travers. Songe, songe t'aime, sans aucun stratagème, juste un peu de soleil qui effleure ton oreille, juste un frisson à peine. J'aimerais te faire une chanson légère, comme cette liqueur de fruits et de couleurs, et aussi quelques fleurs, des mots et des musiques, un chewing-gum qu'on mastique, friandises fredonnées, caramel susurré, chocolat chuchoté. Moi je voudrais te faire une chanson légère, comme un doux courant d'air qui apporte les promesses, une chanson qui caresse, qu'on caresse cette chanson, une chanson frivole qui ne dit rien et s'envole, une balade sans retour, une chanson d'un jour. j'aimerais te faire une chanson légère. Te faire une chanson légère. J'ai fini par te faire une chanson d'amour, une chanson d'amour.
Et voilà, avec Stacy Kent, une pause musicale tout en douceur et nous poursuivons avec un peu de rythme cette fois-ci. Et nous avons justement comme prochaine chanson, je vous propose Mélissa. Un peu de soleil dans le studio et partout d'où vous êtes finalement. Je vous envoie quelques rayons avec Julien Clerc.
Mélissa métisse d'Ibiza, vit toujours dévêtue. Jamais que je vous ai dit ça, ou Mélissa me tue. Le matin derrière ses canisses, alors qu'elle est moitié nue. Sur les murs devant chez Mélissa, y a tout plein d'inconnus. Descendez, ça c'est défendu, oh c'est indécent. Elle crie mais bien entendu, personne ne descend. Sous la soie de sa jupe fendue, en zoom en gros plan, tout un tas d'individus, film noir et blanc. Mélissa métisse d'Ibiza, a des seins tout pointus. Dites jamais que je vous ai dit ça, ou Mélissa me tue. Descendez, ça c'est défendu, matez chez les gens. Elle crie mais bien entendu, y'a jamais d'argent. Elle crie c'est du temps perdu, personne ne l'entend. La police est tout dévendue, disant qu'elle attend. Mélissa métisse d'Ibiza a toujours sa vertu. Dites jamais que je vous ai dit ça, ou Mélissa me tue.
Voilà un souvenir, nous sommes ensemble jusqu'à 17h. Suzanne Ekebana pour vous accompagner. Je vous rappelle peut-être qu'il s'agit de ma dernière émission pour ce trimestre et pour cette saison. J'espère vous retrouver à la même place, à la même heure, peut-être après l'été. Donc voilà, un petit peu de nostalgie, de mélancolie qui se mêle aujourd'hui. Et voilà, mais nous poursuivons quand même notre voyage musical avec comme, je vous laisse deviner, comme un manouche sans guitare, avec Thomas Dutronc. C'est parti en musique, je l'espère. Voilà, voilà. Il semblerait que nous avons quelques soucis avec la musique. Alors, je vous laisse une petite pause et nous nous retrouvons tout de suite. Voyez, hein, les aléas du direct, hein, c'est incroyable. Hein. On essaye et puis parfois, voilà, il y a des petits incidents comme celui-ci. On se retrouve dans quelques instants. Alors oui, nous avons quelques soucis en régie, vous voyez. Ben, je vous ai dit que c'était la dernière, donc je pense qu'il y a eu un peu de tristesse. Et puis finalement, voilà, donc je vais essayer de vous passer un tout petit peu de musique quand même pour pas vous laisser sans musique. On se retrouve tout de suite pour la suite de la programmation. Restez bien connectés avec Susanna Ikebana. C'est parti. Alors, il semblerait que nous avons perdu une certaine connexion avec Internet. Alors, je vous propose d'écouter, au lieu d'écouter de la musique francophone jusqu'à que la connexion revienne. Voilà, il faut savoir jongler avec ces aléas. Je vous propose d'écouter tout simplement un peu de ma musique puisque j'en ai toujours en réserve. Et je vous propose d'écouter Far Away, qui est en fait issu de mon CD Cinema Soundtrack numéro 1. Et je vous plonge justement dans l'univers du cinéma. Et des bandes son. Voilà. Je ne suis jamais à court de musique. J'essaye en tout cas. À tout de suite. Vous savez quoi, j'ai deviné pourquoi ça s'est coupé, parce que je dois justement vous faire écouter ma musique puisqu'il s'agit de ma dernière émission avec vous pour cette saison. Donc voilà la raison, c'est pour que vous vous souveniez de moi peut-être. Voilà, je vous laisse en compagnie de ma musique jusqu'à 17h. Et voilà pour Faraway. Donc justement, j'espère vous voyager avec moi en musique, cette fois-ci d'une manière instrumentale. Et puis nous poursuivons toujours avec de la musique. Et cette fois-ci, je vous propose Mission Verte. Nous étions en connexion aussi avec Paris. Et bon, aussi parce que c'est l'année aussi de la mer, mais il y a aussi le luxe. Voilà, plusieurs musiques pour vous percer cet après-midi. Et là, l'océan et la mer, puisque nous sommes sur la Costa del Sol. Et nous poursuivons toujours en musique et toujours avec ma musique, puisque nous n'avons pas de connexion Internet. Vous voyez, je crois que je devais vous passer mes extraits pour conserver finalement cette dernière émission ensemble jusqu'à 17h. Et nous parlions de luxe tout à l'heure, nous étions avec Collector Square. Donc c'est peut-être l'occasion aussi de retourner à Paris. Et voici une composition que j'ai faite en l'honneur de Versailles. J'espère que vous appréciez l'après-midi en ma compagnie. C'est parti! voilà pour cet intermède musical. Je reprends la programmation jusqu'à 17h et une programmation un petit peu bousculée puisque nous avons eu des soucis d'internet en régie et il faut savoir improviser. Alors j'ai du programme musical qui n'est pas forcément francophone, mais je vous parle en français donc c'est l'essentiel et je vous propose un souvenir avec Bananarama et Cruel Summer. Et voilà, on dirait que nous avons retrouvé cette connexion. Donc, on était resté avec comme un manouche sans guitare. Et là, je pense que ça va fonctionner. On va essayer. Donc, on reste encore en régie. Donc, voilà les aléas du direct. Mais je pense que cette fois-ci, nous allons pouvoir écouter. Je vais essayer en tout cas de vous passer un peu de musique française. Et oui, ça marche. La magie.
Comme un Corse sans pétard, une Normande sans armoire. Comme t'es pas là, je suis sur les points comme mythique, pornographique et je suis comme un con. Je suis à faune, j'ai plus de neurones, je tombe de mon trône. Quand t'es pas là, je n'existe pas. Comme Sherlock sans sa loupe, comme Tintin sans sa houppe, comme un mondain sans sa coupe. Comme une pizza sans olive, une page de pub sans lessive. Si t'es pas là, je ne suis plus moi. Comme un arbre sans racines, comme le théâtre sans racines, sur cette plage sans Aline. Comme t'es pas là, je suis sur les points com, Rolex, Viagra, tout ça, et je suis comme un con. J'ai 18 montres, la bébête qui monte, je me rends plus compte. Quand t'es pas là, je n'existe pas. Comme un martien sans soucoupe, comme un coiffeur sans un scoop, comme un pâté sans sa croûte. Je suis à faune, j'ai plus de neurones, je n'existe pas. Comme t'es pas là, je suis sur les points com, mythique, pornographique, et je suis comme un con. J'ai 18 montres, je me rends plus compte, la bébête qui monte quand t'es pas là. Je n'existe pas, comme un manouche sans guitare, comme un château sans la Loire, une Normande sans armoire.
Et voilà, avec Thomas Dutronc, nous avons repris le rythme de l'après-midi, bien que celle-ci va bientôt se terminer. Il est bientôt 17h, mais nous avons encore un petit peu de temps pour écouter, je trouve, une très jolie chanson qui est La Dernière Séance, puisqu'il s'agit de ma dernière aussi émission avec Eddie Mitchell. C'est parti en musique, je l'espère. Voilà, parce que nous avons eu quelques soucis de connexion. J'espère que ça va fonctionner. Et autrement, écoutez... Non, on dirait que ça se... On a des coupures cet après-midi, c'est vraiment incroyable. Donc, nous avons heureusement des serveurs qui nous permettent d'écouter d'autres musiques. Donc, je vous propose de poursuivre, en fait, si ce n'est pas avec Eddie Mitchell. Nous allons proposer... Oh, on dirait que Eddie Mitchell veut quand même être là. Oui, Eddie Mitchell vient.
Déjà,
c'est parti.
Et le film est terminé. Je réveille mon voisin. Il dort comme un nouveau-né. Je relève mon strapontin. J'ai une envie de bâiller. C'était la dernière séquence. C'était la dernière séance. Et le rideau sur l'écran est tombé. La photo sur le mot fin peut faire sourire ou pleurer. Mais je connais le destin d'un cinéma de quartier. Il finira en garage, en building supermarché. Il n'a plus aucune chance. C'était sa dernière séance. Et le rideau sur l'écran est tombé. Bye bye. Bye bye, rendez-vous à jamais, mes chocolats glacés, glacés. J'allais rue des solitaires, à l'école de mon quartier. À 5h j'étais sorti, mon père venait me chercher. On voyait Gary Cooper qui défendait le primaire. C'était vraiment bien l'enfance. Mais c'est la dernière séquence. Et le rideau sur l'écran est tombé. Bye bye les filles qui tremblaient pour les jeunes premiers. Bye bye chocolat glacé, glacé. La lumière s'éteint déjà.
Et oui, nous allons bientôt rendre l'antenne. Nous avons eu quelques perturbations avec Internet. Voilà, c'était ma dernière émission. Peut-être que c'est pour ça. Voilà, le studio a été troublé, n'est-ce pas, de cette annonce. Et que vous dire, j'aimerais vous remercier surtout d'avoir toujours été fidèle tous les mercredis, d'avoir été en ma compagnie jusqu'à 17h, de 16h à 17h, un peu partout en Europe et aussi outre-mer. Et ça a été pour moi un réel bonheur, cette expérience. Voilà, j'ai été 3 mois en votre compagnie. J'espère vous retrouver rapidement. J'ai quelques obligations artistiques qui m'amènent à faire une pause, mais j'espère vous retrouver. Et vous savez que toutes ces émissions ont été enregistrées, donc vous pouvez les retrouver sur mon canal, c'est-à-dire ma page officielle, susanna-kebana.com, également sur Radio-Télévision Marbella. Alors voilà, donc nous allons gentiment rendre l'antenne. Vous entendez en fond justement mon générique de fin. Je vous remercie encore une fois. Je vous souhaite une excellente continuation de cette année 2025. Soyez heureux, restez connectés à l'essentiel, à la nature, à la musique évidemment, à l'amour en fait, à tout ce qui nous entoure, et soyez réceptifs aux vibrations. Et c'est vrai que la musique nous offre toujours de très belles vibrations. Voilà, je vous dis au revoir et pas adieu, et à très bientôt j'espère. Soyez heureux. Ciao, ciao, arrivederci, hasta luego.